Femmes libres.
Femmes qui se libèrent.
Femmes qui prennent la parole.
Femmes qui témoignent.
Femmes qui créent.
Femmes qui se révoltent.
Femmes qui luttent.
C'est Femmes libres sur Radio Libertaire.
Reconnaissons-nous les femmes. Parlons-nous, regardons-nous. Ensemble, on nous opprime les femmes. Ensemble, libérons-nous. Levons-nous, femmes esclaves, et brisons nos entraves. Debout, debout, debout.
C'est Femmes libres sur Radio Libertaire.
Bonsoir à toutes et tous. 9e émission de cette année 2025, émission féministe et anarchiste pour combattre patriarcat, capitalisme, religion, tous les pouvoirs qui nous oppriment, nous exploitent, nous discriminent. Nous sommes sur Radio Libertaire pour 2 heures d'antenne de l'émission Femmes libres. Radio Libertaire, c'est la radio sans Dieu, sans maître, sans publicité, la radio de la Fédération anarchiste. Avec Sylvie à la régie et puis avec Agnès qui est aussi avec nous.
Salut les filles.
Bonsoir Hélène.
Alors l'émission c'est tous les mercredis entre 18h30 et 20h30. On peut nous suivre sur le blog pour réécouter les émissions ou avoir le programme. Émission, donc le blog c'est émission-femmes-libres.blogspot.com et on peut aussi nous suivre sur Facebook et Miss Cloud. Pour ce soir, au programme Féminicide par compagnon ou ex, Accord et Acri, hashtag 7, Cosette, Fanny, Tutti, ma vie, mon œuvre. Ensuite, nous recevrons Xavier Gauthier, Délivrance de la mère. Et nous terminerons par des informations, des communiqués, des rendez-vous. Nous démarrons par les féminicides par compagnon ou ex.
Femmes libres.
Femmes qui se libèrent.
Femmes qui prennent la parole.
Encore un drame de la séparation. À Metz, un gendarme a tué sa femme avant de se suicider.
Une mère de famille battue à mort à Montpellier. Selon les voisins, elle était prisonnière
de Tunisie, une marche est organisée pour une adolescente de 13 ans brûlée vive par son père.
Le jeune homme avait tué sa petite amie par jalousie.
Une nouvelle série de viols et de meurtres sordides de femmes en Inde et au
Pakistan. Du nouveau dans l'affaire Pistorius, le champion a été reconnu coupable d'homicide involontaire.
Une femme enceinte et ses deux enfants ont été retrouvés égorgés dans le Val-de-Marne.
Drame familial à Groix, un homme mis en accusation pour l'assassinat de...
Le corps d'une Allemande vient d'être découvert dans le bar.
Ce ne sont pas des cas isolés, ce ne sont pas des accidents. Mettons un terme à ces cris machistes. Reconnaissons le féminicide.
15, c'est le chiffre recensé dans les médias sur Internet des féminicides par compagnon ou ex-compagnon en France depuis le début de l'année 2025. Et c'est un chiffre à minima. De nombreuses affaires sont non comptabilisées parce qu'elles sont en surveillance et subissent l'omerta des parquets. Le 11e féminicide, c'était le samedi 1er mars à Choisy-le-Roi, dans le Val-de-Marne. Une femme de 60 ans a été mortellement poignardée par son mari, sexagénaire, en pleine rue. Ce dernier a pris la fuite alors que leur fils de 37 ans a tenté de porter secours à sa mère. Le couple était séparé mais non divorcé depuis 12 ans. L'homme était revenu d'Arménie espérant renouer avec elle. C'est un crime de possession. 12e féminicide plus une tierce personne. Mercredi 26 février à Charleville-Mézières, dans les Ardennes, une femme de 26 ans et son bébé 9 mois ont été découverts assassinés dans une friche industrielle. Une enquête pour homicide volontaire et homicide pour homicide volontaire et infanticide volontaire sur un mineur de moins de 15 ans a été ouverte, débouchant sur l'interpellation de l'ex-compagnon, 20 ans. Et il a été donc interpellé le mercredi 5 mars. Ce dernier a reconnu le féminicide, mais nie avoir tué l'enfant dont il ne serait pas le géniteur, selon ses aveux. Le 8 mars, une tierce victime, à Fos-sur-Mer, dans les Bouches-du-Rhône, une adolescente de 16 ans a été tuée avec un fusil de chasse par son géniteur, 53 ans, dans son pavillon. Il a écrit une lettre revendiquant son crime pour se venger de la mère de la victime suite à leur rupture. Ce sont des violences vicariantes et c'est un infanticide. Il a ensuite appelé les pompiers sous une fausse excuse et tandis qu'ils arrivaient, il a tenté de se suicider. Son pronostic vital est engagé. Le procureur de la République d'Aix-en-Provence a déclaré « Il y a une enquête en cours, mais à ce stade, il n'y a pas d'ambiguïté sur le mobile. Il s'agit bien d'un terrorisme machiste. » Le 13e infanticide, dans la nuit du 3 au 4 mars à Saint-Denis de la Réunion, Salma Bouinali, 30 ans, a été battue puis défenestrée du 4e étage de son immeuble par son compagnon Stéphane, 49 ans. Ce dernier, ancien policier, aurait pris soin de maquiller la scène de crime avant de prendre la fuite. Le 14e féminicide. Dimanche 9 mars à Étain, dans la Meuse, Gilberte, 70 ans, a été abattue d'une balle dans la nuque par son mari Philippe, 75 ans, sur la voie publique, à proximité de leur maison. L'homme s'est ensuite suicidé avec la même arme. Ce sont des voisins alertés par les bruits de tir qui ont prévenu les secours. Le 15e, jeudi 20 février à Hayange, en Moselle, Alexandra Lucas, 27 ans, a été poignardée à 14 reprises par Jordan, 39 ans, un ex-compagnon de la jeune femme. Malgré l'intervention d'un témoin de 50 ans qui s'est interposé et qui a aussi été poignardé, l'ex-conjoint a lacéré le visage et le cou de la victime devant un supermarché. Prise en charge par les secours en urgence absolue, Alexandra a été plongée dans un coma artificiel avant de succomber ce dimanche 9 mars à l'hôpital. Elle avait porté plainte plusieurs fois, mais la justice ne l'a pas prise au sérieux et les dossiers ont été classés sans suite. Justice complice. Nous les citons, nous ne les oublierons pas. Et sur le site www.féminicide.fr, vous pouvez retrouver tous ces dossiers.
Ce ne sont pas des cas isolés, ce ne sont pas des accidents. Mettons un terme à ces cris machistes, reconnaissons le féminicide.
Bonsoir, bonsoir, vous êtes sur Radio Libertaire dans Famille Libre, Radio Libertaire 89.4 FM et sur le net aussi, radio-libertaire.org, la voix sans Dieu ni maître de la Fédération anarchiste. Et voilà, eh bien, on arrive à notre septième épisode de Accord et Accri. Et cette fois-ci, eh bien, Accord et Accri, simplement, c'est parti.
Accord et Accri,
Accord et à cri, accord et à cri, accord et à cri, accord et à cri, accord et à cri. Salut, salut, Accord et Acri, c'est le septième épisode donc avec Così Fanny Tutti. Così Fanny Tutti, sa vie, son œuvre, et ce n'est pas un titre simpliste, mais c'est bien sa réalité à elle. Così, figure de la musique industrielle, performeuse, plasticienne, qui a résolument fait de sa vie, son œuvre, donc l'engagement artistique le plus radical. Accord et Acri, c'est parti! Christine Newby, hein, qui deviendra Così Fanny Tutti, un pied de nez à l'opéra de Mozart, est née à Kingston upon Hull, un port industriel du Yorkshire en Grande-Bretagne. En 2017, elle fait paraître son autobiographie écrite d'après son journal et intitulée Art, Sex, Music. Così raconte l'underground anglais depuis les années 70 et la naissance de la musique industrielle, le tout mêlé intimement à sa propre existence. Mais comme la vie artistique de Così Fanny Tutti est riche et vaste, nous allons nous concentrer sur la période de 1969 à 1981, autrement dit de la création du collectif Coombe Transmissions à la séparation du groupe Throbbing Gristle, dont on dit volontiers qu'il a inventé la musique industrielle. Bien sûr, rien n'est simple. À la lecture d'Ars Ex Music, on réalise que cette période incroyablement créative pour Così s'est déroulée en partie sous l'emprise de Genesis Peerage, performeur barré qui a lui aussi fait de sa vie son art, mais était également un manipulateur violent qui voulait tout contrôler. En novembre 1969, le psychédélisme, bat son plein. Così rencontre dans sa ville natale Genesis Peerage et il tombe amoureux. Celui-ci fait découvrir à Così Aleister Crowley, l'occultiste anglais du début du XXe siècle, qui a fondé sa secte sur la magie sexuelle. Et cette magic, comme elle la nomme, devient rapidement centrale dans leur existence et leur création. Fin 69, Genesis crée Coombe Transmissions, le collectif dont Così devient l'un des piliers. Les performances de Coombe s'inspirent de Fluxus, le mouvement néo-dadaïste qui prône l'anti-art, l'abolition de la frontière élitiste entre l'art et la vie. Coombe est un pionnier du body art qui joue la provoque. Et par exemple, pour les grottes de Bontalban, le public doit d'avoir rampé pour arriver à l'intérieur du centre des arts. Et là, il découvre un Genesis hurlant en baby gros bleu ciel. Fizzy, un membre de Koum déguisé en savant fou, reste caché dans un cercueil dont il surgit et bombarde le public avec de la cervelle animale que Cozy renvoie à coups de baseball. Leur but, c'est pousser le public le plus loin possible jusqu'à ce qu'il se fâche et, ce faisant, participe. La définition de Koum était volontairement évasive, écrit Cozy. Comme ça, la liberté d'expression et d'interprétation restait totale. Chacun de nous y explorait et réalisait ses fantasmes ou ses obsessions pour trouver une identité personnelle et artistique. Le principe de Koum, c'était de se libérer des règles et du doute, de contester de manière transgressive les règles établies et les conventions socio-culturelles. On écoute Alien Brain, un extrait de Edna and the Great Surfers, performance jouée en première partie d'Hawkwind en 1971. Et oui, le son est pourri, mais ça, c'est d'origine. Kingston, les membres de Koum vivent en communauté à la Ho Ho Fun House. Ils jouent leurs performances dans les rues et ils tirent le diable par la queue. Cozy trouve des petits boulots, elle fait le ménage. Et inspirée par Charles Manson et la magie de Crowley, Genesis s'organise des orgies, peaufine son art de la manipulation et se prend pour un gourou. We'll be right back. Alors, un des mots d'ordre du collectif KUM, c'est Do It Yourself. Pour promouvoir KUM Transmissions, Cozy se lance dans le mail art, l'art postal, grâce auquel elle deviendra l'amie du musicien américain Monte Casazza et Genesis rencontrera William Burroughs. En 1972, alors que Cozy découpe des revues porno pour ses collages de mail art, elle décide de se prendre elle-même pour modèle. J'aurais créé l'image même que j'utiliserai ensuite pour créer une œuvre d'art. Cette approche semblait condenser ce que j'attendais de mon travail, ma vie et mon art et ma vie. Et elle décide de bosser dans le porno. Mais dans le milieu féministe de l'époque, cette approche passe mal. Elle raconte « Céder le contrôle de mon image était une partie importante du projet. L'exploitation et l'objectivation sexuelle des femmes étaient un sujet brûlant chez les féministes. » Et les travailleuses du sexe comme moi étions perçues comme les ennemis. Je ne me reconnaissais pas dans le féminisme de cette époque. Il ne me représentait pas et passait à côté de la nature complexe et variable des femmes. Certes, en travaillant dans le porno, je rendais possible, sans pour autant le soutenir, ce contre quoi elle luttait. Mais je n'étais pas une victime de l'exploitation. J'exploitais l'industrie du sexe à mes propres fins pour la subvertir et en faire la matière première de mes œuvres. Pour la performance de Coming of Age, devenir KUM majeur, elle joue un mannequin posant nu pour un photographe lubrique. L'objectif, montrer les coulisses de la création pornographique. Elle raconte « J'étais enfermée dans une cage cylindrique de 2,50 m, couverte de tentacules en latex couleur chair et maculée de sang. Et Foxtrot, un membre de KUM, me donnait ses instructions jusqu'à ce qu'il me libère et je traversais la scène en prenant des poses glamour. »
United, you and I, you and I.
Des années 70, Coombe Transmissions est finalement reconnu comme un acteur important de l'art contemporain. Et en octobre 76, le collectif présente une rétrospective intitulée Prostitution à l'Institut des Arts Contemporains, l'ICA de Londres. Une rétrospective qui fait référence au travail de Cosy dans l'industrie du sexe. Et le groupe Throbbing Gristle, composé de 4 membres de Coombe, fait son premier concert pour le vernissage. Nous avons passé un bon moment, le public aussi, raconte Cosy. Pas d'instrument attitré, pas de voix, pas franchement de rythme, mais des boucles que nous avions préparées, une atmosphère industrielle et le volume à fond. Throbbing Gristle, ça veut dire bite turgescente en argot. Les 4 musiciens du groupe sont Cosy Fanny Tutti à la guitare et au cornet, Genesis Peoridge à la basse, violon et chant, Peter Slizzy Christopherson aux effets sonores et visuels, et Chris Carter au clavier, un électronicien inspiré qui construit lui-même ses synthés. Extrait de Slug Bite, Apa Alimas, enregistré live à l'ICA. Genesis Peoridge est de plus en plus dictatorial et égocentrique, et l'arrivée de Chris Carter dans le groupe est déterminante pour Cosy. C'était la première fois que je rencontrais un véritable égalitariste. Pour la première fois depuis des années, je savais que quelqu'un se souciait vraiment de moi, m'acceptait tel que j'étais et m'encourageait à suivre mes envies pour m'accomplir. Plus loin, elle continue. Quand on est dans une relation caractérisée par la manipulation et la supercherie, on développe des mécanismes de résilience et de défense dans le seul but de maintenir un sentiment d'amour-propre et de contrôle. Alors que les groupes punk sont tranquillement récupérés par l'industrie musicale, TG, Throbbing Gristle, crée son label, Industrial Records, en 1976. De 76 à 81, outre Throbbing Gristle, le label produira notamment Monte Casaza, Clock DVA, William Burroughs et Thomas Lear. Menant une politique de marketing farouchement ironique et anticommerciale. Nous utilisions les techniques de l'industrie musicale en les détournant et en les adaptant à nos besoins et à notre sens de l'humour, notamment en ce qui concerne la manière dont l'industrie vendait ses produits, explique Cosy. On écoute Discipline, un titre enregistré live en 1981 au Rafter Clubs de Manchester au cours d'une soirée Psychic Rally filmée par Derek Jarman pour son documentaire Psychic Rally in Heaven ou Rassemblement psychique au paradis. Thank you.
lèvres.
Les concerts de Froman Gristle sont provocateurs, désorientants et ils se terminent parfois en bagarre générale. Cosy explique. Nous faisions place au débat en venant saper les définitions convenues de musique. Nous ne voulions pas de disciples, mais que les gens pensent par eux-mêmes, soient créatifs. C'était ça, être industriel. Adopter une éthique de travail et de vie, être indépendant, actif, productif, entier et dévoué. Nous détournions les systèmes pour en faire une force subversive ou dans l'espoir de faire changer les choses. En 77, Genesis veut tirer TG vers le punk et rester l'unique chanteur. Mais Sleazy, Chris et Cozy s'y opposent. Et sous l'influence de Chris Carter, le son va changer vers ce qui sera le son de Chris and Cozy, leur duo post-Froman Gristle. Les textes et les sons de TG s'inspirent de leur vécu, du contexte culturel et politique de l'époque, ou de sujets qui mettent les gens mal à l'aise, comme Ziclombé, Zombie ou Discipline, qu'on vient d'écouter. Le titre Persuasion, parle des méthodes que les photographes ont infligées à Cozy quand elle posait pour eux.
What difference does it make? What difference does it make? Someone else sees it too.
En 1981, Throbbing Gristle part en tournée aux États-Unis pour la première fois, mais le groupe est scindé en deux camps, Genesis et Sleazy, contre Chris et Cozy qui se sont évincés. Genesis se prend pour une rockstar et le concert de Los Angeles est un vrai cauchemar, raconte Cozy, qui vient de découvrir qu'elle est enceinte de Chris. TG donne son tout dernier concert au Quasar Pavillon à San Francisco le 29 mai 1981. C'est ce qu'on est en train d'écouter en ce moment sous ma voix. Il s'est avéré que le concert de San Francisco serait mon préféré, écrit-elle. Les énergies qui nous avaient amenés à jouer ensemble percutaient de plein fouet les plaies ouvertes de nos déchirements, insufflant à Throbbing Gristle un pouvoir phénoménal, à tel point que j'avais l'impression de sortir de mon corps comme si je flottais au-dessus de la scène. Une sensation probablement favorisée par le plateau monté sur ressort et par les bonds du public qui suivaient nos rythmiques. C'était une belle fin. Je ne me souviens pas d'avoir touché le moindre centime pour ces deux dates, raconte Cozy, mais je m'en fichais. Je n'avais jamais été aussi heureuse et j'avais hâte de rentrer pour commencer ma nouvelle vie avec Chris, libérée du joug qui était devenu Throbbing Gristle. Je n'étais pas triste que ce soit fini, TG avait fait son temps. Le groupe se reformera épisodiquement pour des concerts dans les années 2000. Cozy enchaîne en duo avec Chris Carter sous le nom de Chris and Cozy et continue à dérouler sa longue carrière musicale, artistique. Elle écrit, elle expose, elle compose des musiques de films. Mais ça, ce sera l'objet d'une autre émission. Vous pouvez retrouver les références de art, sexe, musique ainsi que la playlist de cette émission et les liens sur le site de l'émission, émission femmeslibres, blogspot.com et sur meproduction.org. On se quitte avec la voix de Cozy sur Hot on the Heels of Love, sur les talons de l'amour, un titre du troisième album de Throbbing Gristle, nommé ironiquement 20 Jazz Funk Greats, sorti en 1979. Salut!
tu as grandi sans rêver de sirène. Ton père te mettait des gifles et tu pensais je t'aime. Toi tu as toujours refusé qu'on t'apprivoise. Et d'ailleurs on dit de toi que tu n'es pas courtoise. Toi tu t'es occupée de tous tes frères et sœurs. De ta mère aussi d'ailleurs quand elle était en pleurs. Toi tu as aimé un homme passionnément. Mais tu ne sais pas pourquoi il est parti comme le vent. Vous êtes souveraine, vous êtes souveraine. Vous êtes souveraine, vous êtes souveraine. Vous êtes souveraine, femme qui côtoyait la haine. Toi tu voulais être musicienne. Ça fait des années qu'à l'école tu t'entraînes. Lui il t'a dit je suis désolée, mais à de ces malheureux on ne peut pas plonger. Alors tu t'es arrêtée et tu l'as oubliée. Mais tout au fond de toi la musique tu l'as gardée. Et parfois tu l'entends tout bas te chanter. Un air que la nuit en secret tu vas murmurer. Vous êtes souveraine, vous êtes souveraine, vous êtes souveraine.
Voilà, bonsoir Xavier Gauthier, je suis ravie de t'accueillir.
Bonsoir.
Parce que, bon, de temps en temps, on se voit.
Oui.
Hein. La dernière fois, c'était pour... on les appelait pétroleuses.
C'est
et ça. C'était une édition tunisienne. Et ça, c'était... super qu'en Tunisie, on s'intéresse aussi aux pétroleuses. Là, aujourd'hui, c'est pour découvrir ton dernier livre. Je pense que c'est le dernier, hein ?
Oui, c'est le dernier
voilà.
Paru. Oui.
Dernier paru, mais voilà, j'entends bien qu'il y en a un autre qui se profile. Donc, Délivrance de la mer. Et c'est vrai que quand j'ai lu le titre, j'ai trouvé très, très beau ce titre, Délivrance de la mer. Alors, tout à l'heure, quelqu'un m'a demandé, la mer, comment ça s'écrit ? Je dis, ben, il y a les deux écritures, mais là, dans le titre, c'est Mer, M-E-R, et c'est aux éditions des femmes. En fait, moi, quand je suis rentrée dans le livre, j'étais absorbée par la lecture. Bon, c'est un roman féministe qui m'a absorbée avec ce mouvement de cette femme. Cette fille, cette jeune fille qui veut sortir de sa condition d'être fille de pêcheur, qui s'en va mais qui revient parce que la mère, ben ça revient, ça fait revenir. Hein, c'est ce mouvement, on le sent là dans ton écriture. Mais avant de parler du livre. Tu es présentée par les éditions des femmes, puisque c'est un livre qui est sorti aux éditions des femmes. Alors, il est dit que Xavier Gauthier, journaliste, éditrice, universitaire et chargée de recherche au CNRS, fondatrice, mais ça je le savais plus de la revue Sorcière, Les Femmes Vives, et autrice d'une vingtaine de livres de genre multiple. Alors, roman. La Féline, des entretiens, les parleuses, des témoignages, Avorté clandestine, tu étais venue d'ailleurs présenter Avorté clandestine, de récits engagés, Retour à la Hague, Féminisme et nucléaire, tu étais venue le présenter aussi, et que tu es une passionnée par Louise Michel et puis les autres pétroleuses, et donc on a déjà tout à l'heure donné quelques mots sur ce livre publié en Tunisie.
En Tunisie et en France.
Et en France,
Elisade, peut-être
oui.
On peut la citer.
Ah oui, Elisade, oui, c'est voilà. Vrai, oui, Elisade.
Qui est diffusée aussi en France.
En hein. France, oui. D'ailleurs, on les appelait pétroleuses, on le vend à la librairie Publico, 145 rue Amelot. C'est un livre, moi je trouvais très joli aussi comme format et comme présentation. Et puis, tu es quand même la première à avoir fait la biographie de Louise Michel. Hein. Voilà, ça c'est important dans ta vie, ça, il me semble. Voilà. Et puis, était ressorti Rose Saignée, un livre qui a combien 50 ans.
tu l'avais écrit en 74.
Oui, quelque chose comme ça, oui.
Hein?
Donc c'est une nouvelle édition augmentée.
J'ai ajouté
quelque chose.
Ouais. Et les éditions des femmes disent que pour Rose Seignier, l'audace surprend encore. Mais dans Délivrance de la mer, l'audace aussi nous surprend. Hein? Voilà, tu as une écriture poétique, mais tu as une audace aussi dans ton écriture. Alors, je voudrais te demander, qu'est-ce qui a fait que tu as eu envie d'écrire ce roman ?
C'est difficile à répondre, parce que justement, quand on écrit un essai, on a une idée vraiment préconçue, tandis qu'un roman, on se laisse un peu saisir sans réfléchir autant. En fait, j'ai pris pour cadre, plus ou moins, un village de Normandie, où j'allais passer mes vacances, qui est Fermanville, pour ne pas le nommer. Et je ne suis pas du tout fille de pêcheur, hein, c'est pas ma vie. Mais il y a quelque chose, quand on allait se balader du côté du port de Fermanville, je me souviens à l'époque, il y avait une seule maison, comme on la voit d'ailleurs sur la couverture.
Sur la couverture, oui, isolée.
On a beaucoup travaillé avec Laure Salaté pour la maquettiste des éditions des femmes, pour produire quelque chose qui corresponde au texte, bon, qui ne correspond plus à la réalité, bien sûr. Ça c'est un petit peu construit, bon. Même si ça reste une région sauvage. Et je me souviens donc qu'il y avait une seule maison de pêcheurs. Et je me disais, mais comment on peut vivre dans cette maison ? Est-ce qu'il y a je savais rien des gens qui y habitaient. Mais comment on peut vivre ? Comment on peut faire ? Et bien voilà, j'ai essayé de répondre. C'est la question que je me suis posée. Et je suis restée avec, il y avait une carte postale de ce village, de ce coin de village, le port, sur le port. Et j'ai laissé courir mon imagination à partir de ça, en ajoutant tout à fait sans doute quelque chose de ma révolte adolescente qui passe.
C'est-à-dire une révolte qui ne veut pas reproduire ce que nos parents nous montrent au quotidien.
C'est ça, tout à fait.
Il faut fuir, il faut partir, il faut pas leur ressembler.
Oui, il y a quelque chose comme ça, tout à fait, une espèce de fureur comme ça. J'ai une amie qui m'a écrit d'ailleurs, en ayant lu le livre, « Ah, mais moi aussi, je me disais, je ne serai jamais cette femme qui passe le serpillière, etc. » Moi aussi, j'ai ressenti ça, et je pense qu'elle n'est pas la seule, et on n'est pas les seuls, il y avait quelque chose comme ça. Voir plus grand, voir autre chose, couper la monotonie, couper les attaches.
Et puis la répétition.
La répétition.
Et cette répétition dans Délivrance de la mer, on le ressent par des gestes, bien sûr, le matin, toujours les mêmes gestes, le soir, toujours les mêmes gestes, mais aussi par la marée qui vient, qui repart. Et voilà, c'est une répétition sans fin.
Je crois que la mère est peut-être le personnage principal.
Oui.
C'est pas pour rien que ça s'appelle les Délivrances de la mer. Et comme tu l'as fait remarquer, c'est ambivalent, c'est ambigu même.
Oui.
Est-ce que l'héroïne, le personnage principal, Agathe, veut se délivrer de la mère MER ou de sa mère, et peut-être les deux ? Ou est-ce que la mère est une délivrance ? Enfin, il y a quelque chose... J'ai même pas... sûrement penser quelque part, on parle de délivrance dans l'accouchement.
Oui, femmes, hein, absolument.
Voilà. Donc les mères. Il y a plein de sens, il y a plus une ambiguïté. C'est ce qui est... Le roman, la fiction, ça permet ça. Ça permet une épaisseur. Sans donner la réponse, on peut imaginer plein de choses, on peut sentir plein de choses. C'est pour ça que ça m'a plu.
Alors, cette photo de cette maison isolée, dans le livre... On se représente la maison, hein, parce que à chaque fois il y a un long chemin pour venir à la maison, donc ça veut dire qu'elle est isolée, hein. Mais dans la maison Il y a un rez-de-chaussée, c'est évident. Hein. Il y a un rez-de-chaussée là où on mange, là où on rentre dans la maison et là où on mange. Et puis, il y a un grenier, là où elle dort, Agathe. C'est un grenier qui n'est pas du tout fait pour faire une chambre à coucher, mais elle a décidé d'arriver à un certain âge qu'elle elle pouvait s'isoler dans cette maison. Et du coup, la maison, tu l'as conçue avec uniquement ce rez-de-chaussée et ce grenier ?
Oui, je voyais pas autre chose.
Oui.
Une petite maison, encore que ça fait quand même un certain nombre d'enfants qui s'entassent avec les parents en bas.
Beaucoup d'enfants, beaucoup, beaucoup. Alors, ils s'appellent tous avec des prénoms qui commencent par un A. Hein, donc, on a Agathe, bien sûr, mais on a Aline, on a plein de A. Le A, c'est la première lettre de l'alphabet, c'est comme si on n'était pas passé à la deuxième lettre.
C'est peut-être ça, oui. Je ne peux pas dire pourquoi je l'ai choisi comme ça. Il y a beaucoup de choses qui viennent comme ça dans l'écriture, qu'on ne choisit pas trop. On a l'impression que ça passe. J'allais dire que ça apparaît avec la plume. Bon, non, j'ai une souris comme tout le monde pour écrire. Mais on sait s'entraîner et c'est notion de...
Et donc, il y a plein d'enfants et on se dit, ils dorment tous les uns sur les autres, les parents dans un coin, et puis on mange là, et on se lave où ? Je n'en sais rien. Voilà, on va aux toilettes où ? On ne sait pas.
Mais alors, peut-être à ce sujet, je peux te dire, il y a quand même quelque chose... sans doute que j'ai voulu faire apparaître, mettons que ce soit la période de mon enfance, hein, j'ai 80 ans, et j'entends dire partout que les gens de mon âge, on a complètement détruit la planète à force de jouir de plein de choses. Or, moi, quand j'étais enfant, j'habitais dans une ville, mais n'empêche que on se lavait dans une bassine, comme ce que je raconte dans l'histoire, il y avait un fourneau et on faisait chauffer de l'eau sur le fourneau. Enfin, tout un ensemble de choses. On mettait le fer à repasser, je sais que j'en parle dans le livre, le fer à repasser sur le fourneau, parce que ce n'était pas électrique. Donc, on ne faisait pas beaucoup de dépenses d'énergie. Hein. C'était vraiment très parcimonieux. Et la soupe le soir... dans les gestes de la femme, je retrouve aussi quand même les gestes de ma mère, hein, même si elle n'était pas
Oui, et puis c'est une période où on mangeait peu de poissons. Là, on est au bord de la mer, donc je pense aux poissons, mais peu de viande aussi. On mangeait surtout de la soupe.
De la soupe, là, oui.
Voilà.
Soir, oui,
hein? Moi, je suis plus jeune que toi, mais c'est pareil. Nous, on n'avait pas de salle de bain. Hein? Voilà. L'évier, il servait... L'évier, c'était... Il servait à la fois pour la boutique, parce que mes parents étaient commerçants, et à la fois pour se laver. Hein, voilà. C'est, voilà.
Bon, voilà.
Et donc, c'est vrai, ce que tu dis là, c'est que on vivait chichement. Peut-être tout ça jusqu'aux années 60...
Oui.
Voilà, 60. Même, ouais. Et à partir des années 60, les choses ont quand même changé.
Oui.
Hein? Voilà, mais c'est pas la génération, c'est pas ta génération, en tout cas, qui est responsable de ce qui se passe aujourd'hui.
Voilà, j'espère.
Et en plus, t'es militante anti-nucléaire, donc voilà. Bon, et alors, tu écris page 45. La mer qui est ma prison d'entêtement, la mer qui est mon butoir. Voilà. Alors, évidemment, c'est Agathe qui parle, hein. Mais toi, ça te parle aussi, ça ?
Oui, quand j'étais adolescente, c'était plutôt un espoir, la mer, parce qu'il y avait des bateaux, on pouvait partir, bon... je me souviens que j'avais découpé dans un magazine une photo d'une femme comment on dit sur un bateau, marin-pêcheur, mais c'était elle qui commandait le bateau. Mmh. Et j'avais trouvé ça extraordinaire, j'avais collé cette... voilà. Mmh. J'avais eu l'impression qu'elle avait une liberté extraordinaire. Bon, donc, la mère, pour moi, quand même, a été plutôt une promesse de liberté.
De liberté, ouais. Ouais, ouais, ouais.
Moi, dans ma vie. Hein. Mmh. Par contre, l'idée de partir... de ne pas rester dans un endroit où tout le monde vous connaît plus ou moins et d'arriver dans la grande ville de Paris, ça c'est tout à fait autobiographique, c'est-à-dire j'ai tout à fait ressenti ça, le plaisir de l'anonymat, de la foule, de traîner dans les bistrots, bon, et comme Agathe, j'ai bien souvent dormi par terre ou me suis assise par terre, bon, parce que j'avais pas un sou, donc j'ai traîné une vie un petit peu étrange dans les premières années à Paris, mais donc il y avait quand même la sensation de liberté en fuyant ce sol natal, au fait. Hein, voilà.
Et en fuyant la famille.
Et en
voilà.
Fuyant la famille.
La famille. Alors là, Agathe, elle vit donc dans ce village au bord de la mer, hein, mais elle rêve d'évasion. Hein, et quand on parlait tout à l'heure de la marée, il est dit qu'elle est enfermée dans une vie dictée par les cycles de la mer, hein, la rudesse de la pêche, parce que si le bateau, c'est une possibilité de partir, pour ceux qui y travaillent, c'est extrêmement difficile d'être pêcheur, hein. Et pour les femmes qui partent pas sur les bateaux, eh bien c'est toujours la crainte que le bateau chavire et que le mari meure, hein. Pour toutes les femmes de pêcheurs, c'est elles pensent la même chose, hein, toutes, hein. Et là, elle veut fuir la monotonie des tâches familiales, et elle veut pas être cette femme qui est représentée par sa mère. Par contre, elle rencontre une autre femme, l'institutrice, où là, il se passe quelque chose de super entre elles.
Oui, c'est ça. Alors, ce qui peut-être la sauve, et puis à la fin... C'est les livres.
Oui.
C'est les livres qu'elle lit. Alors, c'est Rimbaud, je pense qu'on a reconnu.
Oui, bien sûr.
Les phrases du bateau ivre et des illuminations. Donc, la lecture, c'est l'ouverture. C'est vraiment l'ouverture sur le monde. Et donc, et ça, moi, j'ai beaucoup ressenti ça. La lecture de livres, c'est quelque chose. Ouais. Et je le pense toujours, c'est quelque chose qui ouvre l'imagination, qui ouvre la sensibilité, qui ouvre l'intelligence et qui ouvre aux autres.
Ouais. Mais avant même la lecture, cette femme, elle n'est pas mariée, elle n'a pas d'attache, elle est libre de sa vie, elle s'intéresse à Agathe, ce qui n'est pas le cas dans la famille. Voilà, c'est aussi un attachement qui est fort pour Agathe, parce que quand elle reviendra chez l'institutrice.
Hein. Ouais. Cette Madame Le Gagneux, elle donne une possibilité de vivre là.
Oui. Mais
on peut vivre là quand on est comme Madame Le Gagneux, entourée de livres, avec en effet cette liberté parce qu'elle est seule.
Ouais. Ouais, ouais. On va écouter la grande Sophie, la mère.
Dans le sable, on regarde l'océan.
Alors, on vient d'écouter la grande Sophie, la mère. Et là, on va revenir sur le personnage d'Agathe. Agathe qui va subir une rumeur qui est absolument infondée. Et puis à partir de là, elle vrille. Voilà, elle part, elle s'enfuit. Parce que ça, elle avait envie de partir. Donc, c'est l'occasion de partir. Mais les rumeurs dans les petits villages comme ça, ou dans les quartiers, hein, parce que moi j'ai vécu en banlieue parisienne où je ne pouvais pas sortir de l'école et prendre un autre chemin sans que ma mère soit au courant au moment où j'arrivais. Hein. Donc les quartiers ou les petits villages comme ça, où tout le monde, où tout se sait, mais où ce qui est faux, ce qui est se propage en rumeur, c'est terrible ça. Tu l'as vécu aussi ça
pas trop, mais c'est vrai qu'on était observé, et c'est vrai qu'il y a sur les filles une loi qui n'est pas celle des garçons.
Oui.
Alors là, c'est vraiment très clair. Ouais. Cette notion, comme on appelle l'honneur des filles, qu'est-ce que ça veut dire?
Ouais.
Ça veut dire si elles couchent, elles perdent leur honneur, et si les garçons couchent, c'est eux, ils sont honorés d'avoir fait une chose pareille. Ça, c'est vraiment la marque de la misogynie,
c'est ce qui se passe pour elle.
Elle est attaquée faussement en plus, parce qu'elle est supposée avoir couché avec le metteur en scène, mais c'est quelque chose qui pèse sur les épaules des femmes un peu partout dans le monde.
Et Et là, elle vrille. Elle profite de la voiture de ce metteur en scène pour monter dedans. Lui, il n'avait pas du tout prévu, d'ailleurs.
Le metteur en scène, il me fait penser à Roman Polanski.
Oui.
Et là,
ce qui devait arriver, qui avait été annoncé par la rumeur, arrive. Alors que, alors, ta façon d'écrire ça, évidemment, on y voit le sperme, on y voit le sang, puisqu'elle était vierge. Donc, on voit la tache sur le siège de la voiture. On voit ça, on voit comment on l'essuie. Et puis, il me semble qu'elle, dans ce qu'elle vit, c'est pas si important que ça. Et pourtant, c'est un viol.
Ah, je ne sais pas si on peut parler de viol, parce qu'elle a décidé, elle aussi, hein, elle a décidé,
oui.
Ça c'est plus compliqué, hein, parce qu'elle a décidé de se faire, comme on disait, dépuceler dans la jeunesse.
Oui,
oui.
Elle est prise dans ce que les deux mecs, là, ont organisé quand même.
Ah, ils sont complètement méprisants vis-à-vis d'elle, ça c'est
ouais,
d'accord.
Ouais.
Mais il y a une volonté chez elle d'en passer par là, que ce soit fini.
Que ça soit fini. Et après on peut faire autre chose. Et après,
elle fait autre chose.
elle arrive à Paris, il la lâche, il lui donne quand même un petit rôle de figurante, payée 3 sous. Et de toute façon, c'est pas avec ça qu'elle peut vivre à Paris. Donc, elle va se retrouver dans des tas d'endroits à dormir par terre.
SDF, comme aujourd'hui.
Mais
presque volontairement, elle ne veut pas travailler, avoir un travail salarié, qui serait un peu la répétition comme les tâches ménagères, les tâches du travail salarié, ça n'a pas l'air de lui convenir non plus. Hein,
Et du coup, elle va se retrouver. Le mieux, c'est encore le squat, je trouve, parce qu'elle ne dort pas dehors, mais ce n'est pas si facile que ça non plus de supporter la vie dans un squat. Voilà. Donc là, on est sur une période actuelle dans ce que tu racontes. Parce qu'au début, ça aurait pu se passer il y a 50 ans. Mais là, j'ai l'impression que c'est une réalité d'aujourd'hui.
Oui, j'avais pas pensé ça, oui. Et en plus, c'est drôle parce que moi, j'ai jamais vécu dans un squat, mais je me souviens qu'un jour, il n'y a pas si longtemps, quand j'ai écrit, j'ai vu tout un tas d'hommes et de femmes qui sortaient d'un squat. On voyait bien, complètement défoncés, complètement. Voilà. Et je les ai regardés, ils étaient. Tout le monde les regardait, enfin, il y avait quelque chose, ils étaient complètement ailleurs, ils étaient dans un autre monde. Ils étaient, là aussi, je me suis dit, comment on vit ça? Comment, quand on est dedans, quoi. Et c'était vraiment. C'est pas comme au bord de la mer, mais c'est autre chose de vraiment étrange et impressionnant et violent. Il est violent ce livre, non hein? Je crois que il y a une violence.
Alors, c'est la violence de la vie. C'est la violence de la vie, quand on veut être libre, c'est violent. Parce que si on reproduit exactement. Dans le rail qu'on nous a mis, si on reproduit exactement la même chose que nos parents et tout ça, on prend aucun risque. C'est quand même une violence aussi, parce que vous restez à la maison et attendre que les enfants rentrent de l'école et faire à bouffer et torcher les mômes et tout ça, c'est aussi une violence. Mais bon, parce que là, il y en a des mômes. Hein. Mais être libre, c'est forcément violent, parce qu'on prend des risques.
Oui, c'est peut-être juste ce que tu dis, oui.
Et donc là, cette violence-là, alors, excuse-moi, mais quand on parle de la guerre, par ailleurs, je relativise, j'y peux rien. La violence, c'est la violence, hein, de toute façon. Hein, c'est, y a pas de degré. Mais ça n'empêche que là, elle a fait des choix pour chercher. Enfin, non, ton personnage, Agathe, elle a fait des choix pour chercher des expériences. Et elle est allée au bout de ces expériences.
Oui, des expériences destructives. Comme le LSD, parce
oui, que quand même, elle
est mal. Hein.
Oui. Et donc là, on est sur quelqu'un qui cherche sa voie, enfin, qui est paumé. Elle sait ce qu'elle ne veut pas, mais elle ne sait pas ce qu'elle veut.
Oui, c'est très juste, oui.
Ouais. Et donc là, voilà, elle est complètement perdue. Mais sa famille, voilà, dans cette histoire, sa famille ne la cherche pas.
Alors, il semble que si. À un moment,
quand le frère arrive. Quand le frère arrive. André, je crois, il s'appelle. Hein.
Adrien.
Adrien.
Elle dit, j'ai découvert que ma famille me cherchait.
Oui. Mais pendant tout le livre, on ne s'en rend pas compte de tout ça. Hein. On ne s'en rend absolument pas compte. Et finalement... Adrien vient la chercher et je pense que il vient la chercher au bon moment. Mais elle ne le suit pas.
Oui.
Elle fait son chemin de retour toute seule.
Oui. Oui. Le chemin de retour, j'ai beaucoup aimé écrire ça alors que c'est terrible parce que j'essayais d'imaginer ce que cette violence aussi que c'est d'affronter les éléments, d'affronter, de vouloir
La pluie, la boue, la faim, les ampoules aux pieds, enfin la quasiment plus de fringues, elle les déchire avec les barbelés, les chaussures n'ont pas tenu, on a l'impression que, enfin moi. On va pas dévoiler tout, hein, mais moi j'avais l'impression qu'elle partait vers et qu'elle reviendrait pas, quoi.
Ah oui, au moment où tu le lisais,
Oui.
Ah non, moi je savais.
Oui, ah ben. mais toi, c'est toi qui écris, et puis toi, t'es une femme avec de l'espoir.
Oui, quand même. Bon, même si ce livre n'est pas plein d'espoir, mais il y en a quand même. Et à la fin, il y en a quand même. Il y a une clarté, quand même.
Oui.
Parce que le reste, c'est quand même très sombre. Hein.
Oui. C'est sombre. D'ailleurs, la couverture, la mer est très sombre, le ciel aussi.
C'est menaçant.
Et quand tu décris quand elle est encore dans cette maison, tous les trajets qu'elle fait, y compris la nuit, voilà. On voit pas beaucoup de lueur, quoi. Hein. La lueur, ça sera vers la fin du livre, mais on voit pas de lueur au début. Hein.
C'est bouché, c'est sombre, d'où l'idée du départ, quoi.
Ouais, ouais. Et même quand elle est à Paris, je tombe là, j'ouvre une page complètement au hasard, hein, où elle est avec son ami, là, et elle dit, l'une s'allume à l'autre, tout à l'usure de la nuit, nous sortons, nous tenant par la taille, nous allons happer la noirceur extérieure.
Ah oui.
Voilà, là aussi, il y a de la noirceur. Ouais, ouais. Hein, et c'est... voilà. Puis, quand elle revient, elle va retrouver son Julien, son ami d'enfance. Hein, et elle le retrouve au cimetière.
Oui.
Voilà, ça...
oui, parce qu'il y a eu une mort, peut-être, il faut le dire. Voilà. Je ne sais pas, parce que ça, c'est quand même très important.
La mort...
je ne sais pas s'il faut le dire, mais...
Oui, une mort de la d'une petite sœur.
Une petite sœur aussi.
Voilà, plus, et qu'on ne sait pas comment ça s'est passé. Voilà, on ne sait pas.
On ne saura jamais, je crois, le rôle de la mère dans cette histoire.
Ouais.
Et là aussi, il y a une interrogation lourde.
Oui, très lourde, Alors, on va écouter... Isia La Vague, et après tu nous proposes qu'on lise un poème d'Audrey Lorde, parce que dans le livre tu parles alors je dis Audrey, non, Aude Lorde, voilà, tu parles d'un livre d'Aude Lorde.
L'écho
Voilà, on vient d'écouter Isia, La Vague. Et La Vague, c'est la mer. Et là, entre deux, on était en train de se dire que la mer, la vague, c'est peut-être régénérateur. Hein? Et dans l'histoire d'Agathe, eh bien, on sent que si elle revient, c'est parce que elle va pouvoir revivre. Hein? Revivre.
C'est ça. Oui.
Alors, dans le livre, tu parles de Rimbaud. Hein? Cette institutrice ouvre Agathe à la lecture de Rimbaud, mais tu parles aussi d'un autre livre. Alors, tu peux peut-être le présenter, puis on va lire un poème à deux voix.
Oui, alors c'est un livre de Audre Lorde, qui est une poétesse afro-américaine et qui se présente elle-même comme lesbienne, mère, guerrière, poétesse, enfin tout quoi. Elle est fabuleuse. Et moi, la lire, ça me bouleverse et je me sens très proche d'elle. Et c'est alors dans le livre, elle arrive, si on peut dire, à la fin avec une phrase où elle dit à peu près ceci, que tout le monde a une mère noire. Mmh. Et je trouve ça extraordinaire. On dirait c'est une générosité de nous attribuer une mère noire, même si on est blanc ou blanche. Parce que voilà, donc il y a quelque chose, hein, c'est très bouleversant.
Alors, tu proposais un poème. Est-ce qu'il a un titre, ce poème?
Oui, alors ce poème s'appelle Sœur d'armes.
Ah,
c'est
très bien.
Pour changer un peu des frères d'armes.
Hein. Sœur d'armes.
La lisière de notre lit était une vaste méandre où votre fille de 15 ans était pendue, la gorge prise dans les roues de la police, un pignon cloué au bois près de la carte de la Western Reserve. Je n'ai pas pu revenir avec vous pour enterrer le corps, défaire vos cartons d'emballage nocturnes contre le froid suintant du Transvaal. Je n'ai pas pu planter mon autre crampon contre le mur de la gare ferroviaire, ni porter aucune de vos âmes depuis le fleuve dans une calebasse sur ma tête. Alors je vous ai pris un billet pour Durban avec mon American Express et nous gisons ensemble dans la première lumière d'une saison nouvelle.
Nettoyons à présent le fourrage de mon jardin d'automne, l'oseille à vache, la fusée recouverte et faite graine, j'attends par goût ce jour. Le New York Times mentionne finalement ton pays. L'histoire tient sur une demi-page du premier Sud-Africain blanc tué durant les troubles par des enfants noirs massacrés à Sebokeng. Les enfants de 6 ans emprisonnés pour menace sur l'État. Pas de Thabo Sibeko, élève de première année, dans son propre sang, sur le sol du salon de sa grand-mère. Joyce, 9 ans, essayant de ramper jusqu'à lui en chiant par son nombril. Pas d'un nourrisson de 3 semaines sans nom, égaré sous les lits brûlés de Tembisa. Ma main s'affaisse comme un étau brun sur les soucis calendula, téméraire dans la détresse. Nous étions deux femmes noires approchant notre flamme et nous avons laissé nos morts derrière nous. Je flottais. Tu t'es dressée. Le dernier rituel de guérison, c'est le printemps, as-tu suppuré. J'ai balnave pour les flingues et la poudre. Je rentre chez moi demain.
Et où je t'effleure, je lappe le froid de mes doigts, goût de rage, comme le sel des lèvres d'une femme qui a tué trop souvent pour oublier. Et porte chaque mort dans ses yeux, ta bouche, une orchidée d'adieu. Un jour, tu viendras dans mon pays, et nous nous battrons côte à côte.
Un cliquetis de clé dans l'entrebâillement de la porte menaçant tout ce qui adviendra appartient à ici. Je tâtonne à la recherche de ta douceur, mais le silence explose comme une panse engrossée à mon visage, un dégueulis de plus jamais.
monta ici, se défait du tissu que ses belles filles ont teint. Le bébé régurgite le lait de son sein. Elle le refile, somnolent, à sa sœur, et se rhabille pour la guerre, sachant que les hommes suivront. Dans les crépuscules imbriqués de macérus, rapides, tristes, vitaux, elle planifie la bataille du lendemain, rêve du Durban parfois. Des visions du chant profond, ironique, des galets sur la plage, courant après la mer.
Voilà, un beau poème, très étrange.
Étrange et étrange. Aussi violent, hein.
Oui, oui, oui. Eh bien, c'était une façon de terminer cette présentation de ton livre, « Délivrance de la mer » aux éditions des Femmes. Et puis, peut-être terminer par ce que tu as écrit, toi. « La mer est une violence qui va et qui vient, qui se fracasse contre la roche et qui m'impose sa véhémence. La mer me besogne et me sale. » Et les mouettes me traversent la cervelle de part en part. Les goélands déchiquettent le vent et me braillent aux oreilles. Je prends leur cri et je le lance à travers ma gorge, à travers mes poumons. Je le lance à la face du monde, puissante, survoltée de leur voix de bête. Voilà, ça c'était pour vous donner lecture de comment Xavier Gautier écrit. Parce que c'est une très, très, très belle écriture. Voilà, très poétique, même si, Xavier, tu parles de violence, ça n'empêche qu'il y a toujours cette poésie. Hein. Et ce n'est pas la première fois que je pense, je le dis, parce que le livre sur la Hague, c'était pareil, c'était très poétique. Alors, donc, tu as d'autres projets après ce beau roman?
C'est difficile pour moi de m'arrêter d'écrire, alors
oui.
Je dirais jusqu'à ma mort. Là, j'essaie d'écrire quelque chose qui pourrait ressembler à une autobiographie, sauf que, qui ne serait pas chronologique, mais alphabétique, des mots à partir de certains mots, hôtel, par exemple, je développe quelque chose, j'ai vécu un certain nombre de choses dans ma vie, donc peut-être que ça apparaîtra, voilà.
Très bien. Bah, je te remercie beaucoup de ta visite.
Merci à toi.
Voilà, on a passé un bon moment avec Délivrance de la mer de Xavier Gautier aux éditions des Femmes. On est toujours à l'écoute de Femmes Libres. Et là, pour terminer avec de l'espoir, Angélique Yonatos, Espérar.
Esperar con la angustia guardar la columna rota y la inmensa mirada y la inmensa mirada. Sin andar en el vasto sendero, moviendo mi vida, cercada de acero. De acero, olor de veneno, todo al revés. Y yo, sol y luna, pies y frida. Yo, sol y luna, pies y yo, sol y luna, pies y frida.
sin andar en el vasto sendero, moviendo mi vida cercada de acero. Espero alegre la salida y espero no volver jamás, jamás.
Alors nous passons au quatrième temps de l'émission Femmes Libres sur Radio Libertaire avec des infos, des communiqués, des rendez-vous. Et un rendez-vous par exemple le 20 mars à 20h30 au cinéma le Luminor Hôtel de Ville, 20 rue du Temple, dans le 4e arrondissement de Paris. C'est une soirée dédiée à May Haïm, poétesse et activiste, lecture par Marianne Mathéus et Sarah Fila Bakabadio, suivie de la projection de Hoffnung im Herz de Maria Binder. Le réseau social idéal, c'est le mercredi 19 mars à 19h jusqu'à 21h. Le Média Lab de Sciences Po et le Centre Internet et Société du CNRS s'associent à l'occasion d'une soirée unique pour faire dialoguer chercheurs, entrepreneurs, journalistes et experts autour d'une question. Quels réseaux sociaux voulons-nous ? Et ça se passera dans l'amphithéâtre Chapsal, 27 rue Saint-Guillaume, dans le 7e L'inscription est obligatoire auprès de zidane.benabdeslam@sciencespo.fr. Alors zidane.benabdeslam, B-E-N-A-B-D-E-S-L-A-M. Voilà, ou manon.fassi@sciencespo.fr. Et puis, nous aurons l'occasion d'en reparler, mais Girls for Tomorrow, c'est un film de Nora Philippe. L'avant-première aura lieu au Luminor, encore le Luminor, hein, donc 20 rue du Temple, le 31 mars. Et la diffusion sur Arte est prévue le 9 avril. Le film a été tourné sur 10 années jusqu'aux élections de novembre 2024 à New York. Et nous aurons l'occasion de parler de ce film qui met en scène 4 étudiantes au Barnard College, filmé par Nora Philippe au moment où elle vient de mettre au monde un petit enfant et une petite fille. Voilà le lien entre cette petite fille qui grandit et ces étudiantes qui s'engagent politiquement et dans la vie professionnelle. Le mouvement français pour un revenu de base organise dimanche 16 mars au Sample à Bagnolet, 18 avenue de la République, de 14h à 22h, une après-midi sur le revenu de base. Pour ce mouvement, c'est un droit inaliénable, inconditionnel, cumulable avec d'autres revenus, distribué par une communauté politique à tous ses membres, de la naissance à la mort, sur base individuelle, sans contrôle des ressources ni exigence de contrepartie, dont le montant et le financement sont ajustés démocratiquement. À 14h30, il y aura une discussion sécurité sociale chômage ou Allocation universelle d'existence avec Odile Merclin du Collectif national pour les droits des femmes et AC, Claire Vive, sociologue du Centre d'études de l'emploi et du travail, Guy Valette, Mouvement français pour un revenu de base, et le débat sur sécurité sociale, chômage ou allocation universelle d'existence sera suivi par la projection du film d'Hélène Crousilla, L'effet Bahamas. À 20h, il y aura un concert de Tony Dola avec des chansons françaises sur les péripéties d'un épicier. Et puis, des expos du 4 mars au 3 avril à la bibliothèque Jacqueline Dreyfus-Veil, 6 rue Fessard, dans le 19e, Les luttes des femmes dans les années 70, un récit des archives. L'entrée est libre et une visite sera commentée le 2 avril à 18h30. Donc c'est 6 rue Fessard sur les luttes des femmes dans les années 70. Une autre exposition du 6 au 22 mars au CPA Pina Bosch, 4 passage Stainville dans le 12e, Aora Ke. Ça porte sur les expériences vécues en tant que jeune femme dans la vingtaine, plongée dans une ville qui nous est encore étrangère. Et aussi du 6 au 26 mars, au Centre culturel Bessie Smith, 19 rue Antoine-Julien Hénard, dans le 12e, attitude autour des représentations des femmes par l'illustratrice Saloua Zine, et c'est tout public. Alors, je peux donner le numéro de téléphone du Centre culturel Bessie Smith, 01 40 02 06 60, pour avoir les horaires en particulier, et puis du CPA Pina Bosch, le numéro de téléphone, c'est le 01 43 41 47 87. Voilà, alors d'autres informations, Macho hors de nos chantiers, de rêves et de parpaings. Projection de ce film le jeudi 20 mars de 19h à 22h au centre Anime Kensaro Wiva, 63 rue de Buzenval dans le 20e. En présence des participantes au chantier au chantier et au film. Donc, les enchantières, puisqu'il s'agit d'elles qui disent « macho hors de nos chantiers », les enchantières, c'est une association de femmes qui partagent les savoirs du bâtiment, se lancent dans la construction de leur propre atelier à Montreuil, au départ utopique, ce grand chantier participatif est ouvert à toutes. Et il se transforme en une aventure collective émancipatrice, nourrie de révolte et de rêve. Moi, je l'ai vu, ce film, au festival Femmes en résistance, où toutes les participantes étaient venues. Je peux vous assurer que ça donnait de l'ambiance dans la salle. Et quand elles sont venues sur le plateau... à la fin de la projection du film, il y avait encore beaucoup de dynamisme et de rigolade.
Et voilà. De surcroît, on peut les faire venir quand on a des travaux à faire chez soi et elles sont très impeccables, quoi. Voilà, je recommande, n'hésitez pas à leur demander de venir faire de la plomberie, de venir faire de l'électricité. Elles sont... j'ai eu l'occasion d'en faire venir chez moi et voilà. C'est autrement, c'est une autre façon d'avoir quelqu'un qui bricole chez soi.
Alors ça, elle s'appelle les Enchantières, donc association de femmes qui partagent les savoirs du bâtiment. Et puis je rappelle aussi que la Maison des Femmes de Paris, 163 rue de Charenton dans le 12e, a toujours besoin qu'on l'aide financièrement. C'est un espace d'initiative et de solidarité féministe de longue date et il faut vraiment soutenir la Maison des Femmes de Paris. Alors vous allez sur Hello Asso, vous cherchez association et vous cherchez ensuite Maison des Femmes de Paris. Voilà, je rappelle que c'est au 163 rue de Charenton, dans le 12e arrondissement. Eh bien là, on va peut-être écouter le temps des cerises. C'est écouter le temps des cerises deux fois parce que je l'ai annoncé un peu trop vite. On n'avait pas parlé des 8 publications des éditions du Monde Libertaire avec tous ces livres qui sont à 10€ chacun. Le tout dernier, c'est Abolir l'armée. Donc, c'est de l'UPF, février 2025. Terre Sainte, guerre sans fin, la création de l'État d'Israël en Palestine, sionisme et utopie, du réseau MACNO. L'éducation intégrale de Paul Robin, texte sélectionné, expliqué et commenté par Hugues Noir. Guerre à la guerre, de Pierre Sommermeyer. Émilie Lamotte, « Vivre en anarchiste » de Marie-Pierre Tardif et de Sylvain Vagnon. « La guerre contre les femmes, les femmes contre la guerre » d'Hélène Hernandez. « Pour un dénatalisme libertaire, ne pas vouloir d'enfants dans une perspective de lutte anticapitaliste » par Nicolas Lamblé. Et « Israël-Palestine 2003-2024 » Chronique libertaire, une guerre qui n'en finit pas, par Pierre Sommermeyer. Voilà, donc 8 publications, des livres à 10€, qui sont des livres, on peut dire, format poche, mais qui peuvent avoir quand même un certain nombre de pages, parce que tout à l'heure, quand je présentais le livre avec Francis dans son émission sur les livres, eh bien, il me demandait combien comportait de pages la guerre contre les femmes, les femmes contre la guerre. Ben, il y a 255 pages. Il y a d'autres livres plutôt sur les 170 pages, mais en tout cas, ce sont des livres de poche qui sont abordables au niveau du prix. Voilà, on réécoute le temps des cerises pour le plaisir. À la librairie Publico, 145 rue Amelot, Paris 11e, métro République, Oberkampf, Fille du Calvaire. Ce n'est non seulement une librairie avec plein de livres et plein d'autres articles, mais c'est aussi le lieu d'un certain nombre d'initiatives. C'est ouvert tous les jours de la semaine, sauf le lundi, de 13h à 19h30, et le samedi, donc jusqu'au dimanche, hein, du mardi au dimanche, et le samedi à partir de 10h. Donc, du 2 mars au 30 mars, une très belle exposition « Histoire de gréviste » d'Amande Haar. Le samedi 15 mars à 19h, intérim, avec Agnès Rougier et Michel Bazieux. Agnès, qui tout à l'heure nous a fait « Accord et Accri », c'est un concert. Le dimanche 16 mars à 16h, il y a une projection discussion sur les bavures policières à l'initiative du groupe Libertaire d'Ivry. Le mardi 18 mars À 19h, Bertrand Ferrier et Yann Alexander chantent Mama Béa et Catherine Ribeiro. Et puis le mercredi 19 mars, Ciné Commune, projection débat, en grève, en présence de Christophe Cordier, un des réalisateurs. Et la suite, on vous le dira la semaine prochaine, mais une date aussi à retenir, c'est le samedi 22 mars à 16h, le Chœur des Sardinières rencontre avec la scénariste Léa Twitou. Et toutes les informations qu'on vous a données sur les événements s'inscrivaient dans le Mars féministe, sauf le Ciné Commune en grève. La semaine prochaine, nous serons le mercredi 19 mars. La tribune libre, où sont les enfants? Et puis notre invité, Christophe Hilla-Sommer, auteur de Le son de la révolte aux éditions Le mot et le reste, et un livre qui est sorti en 2024. Et Christophe évoquera pour nous les chanteuses noires américaines. Dans le cadre du témoignage des réalités sociales et de la célébration de l'identité noire. On vous souhaite une bonne soirée et féministe tant qu'il le faudra. On termine avec Estelle, l'hymne des femmes.
Nous qui sommes sans passé, nous qui n'avons pas d'histoire, depuis la nuit des temps, nous sommes privés de mémoire, debout, femmes en rage, et détruisons nos cages, debout, 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 debout.
Les hommes, les femmes, hors du monde relais. et je repousse du goulot de la syntaxe à faire se pâmer les précieuses à l'arrêt. La phrase m'a poussé au ventre comme un ox. J'ai fait un bail de 3, 6, 9 aux adjectifs qui viennent se dorer le mou à ma lanterne, et j'ai joué au casino les subjonctifs, la chemise à Claudel et les condits modernes. Syndiqué de la solitude, museau qui dévore cuic-cuic, sédentaire des longitudes, phosphaté des dieux, cher à flic, colis en souffrance à la veine, remords de la légion d'honneur, tumeur de la fonction urbaine, Don Quichotte du crève-cœur, poète, au papier, poète, papier. Le dictionnaire et le porto à découvert, je débourre des mots à longueur de pelure, j'ai des idées au frais de côté pour l'hiver, à rimer le beefsteak avec les engelures. Cependant que Zara enfourche le bidet à l'auberge d'Ada, la crotte est littéraire, le verre est libre enfin, et la rime en congé, on va pouvoir poétiser le prolétaire. Spécialiste de la mistoufle, émigrant qui pisse au visa, aventurier de la pantoufle, sous la table du nirvana, meurt de faim qui plane à la une, écrivain public décroquant, anonyme qui s'entribune à la barbe des continents, poète, vos papiers, poète, documenti, littérature obscène, inventée à la nuit. Onanisme torché au papier de Hollande, il y a partout à l'imistiche mes amis, et que m'importe alors Jean Genet que tu bandes. La poétique libérée, c'est du bidon, poète, prends ton verre et fous-lui une trempe, mets-lui les fers aux pieds et la rime au balcon, et ta muse sera sapée comme une vente. Citoyen qui sent de la tête, papa gâteau de l'alphabet, maquereau de la clarinette, graine qui pousse des gibets, châssis rouillé sous les démences, corridor pourri de l'ennui, hygiéniste de la romance, rédempteur falot des lundis, poète, vos papiers, poète, sale type. Que l'image soit rogue et l'épithète au poil, la césure sournoise certes, mais correcte, tu peux vêtir ta muse ou la laisser à poil, l'important est ce que ton ventre lui injecte. Des seins oblitérés par ton verre barlequin gonfleront goulûment la voile aux devantures, solidement gainée ta lyrique putain, tu pourras la sortir dans la littérature. Ventre affamé qui tend l'oreille, maraudeur aux bras déployés, pollen au rabais pour abeilles, tête de mort rasée de frais, rampant de service aux étoiles, poivre qui fait dans le quatrain, masturbé qui vide sa voile à la devanture du coin. Poète, circulez, poète, circulez, poète, circulez.
Vous enseignez la charité bien ordonnée dans vos châteaux en Italie. Monsieur Toublon, la charité est très gentille.
Mais qu'est-ce que c'est ?
Expliquez-moi. Pendant ce temps-là, moi je vis à Aubervilliers. C'est un petit coin perdu au bout de la misère.
où l'on n'a pas tellement de questions à se poser. Pour briefer, faut bosser, mon père. Monsieur Touglan, l'oiseau blessé que chaque jour était d'une race maudite. Monsieur Touglan, entre nous, rappelez-vous, il n'y a pas longtemps, vous taisiez. Pendant ce temps-là, moi je vivais à Aubervilliers. Ça n'était pas l'époque à dire des rosaires. Il y avait des tas de questions qu'il fallait se poser. Pour durer, faut lutter.